RJB Info.
Le journal Martha Duarte.
Bonsoir. Les agriculteurs à l'origine du projet des quatre bornes montent au front. Ils estiment que ce parc éolien est nécessaire pour répondre au tournant énergétique et lutter contre le réchauffement climatique. Un important dispositif a été déployé aujourd'hui à Porrentruy en marge d'un procès. Une quinzaine de policiers a été mobilisée, une audience sous haute surveillance pour un vaste trafic de drogue. Theresa May tente désespérément de rallier les députés britanniques à l'approche du Brexit. Une semaine après le rejet massif de l'accord négocié avec l'Union européenne, la première ministre revient avec un plan B qui ressemble toutefois fortement à la mouture initiale. Et météo, le temps restera calme et sec cette nuit. Demain, la région se réveillera sous le brouillard jusqu'à 1000 mètres. Au-dessus, le ciel sera bien ensoleillé. Il fera entre 0 et 1 degré au meilleur de la journée. Des agriculteurs défendent le parc éolien des Quatre Bornes. La société éolienne L'Ajout du Plaine L'Echelette affirme aujourd'hui vouloir remettre l'église au milieu du village. À la suite de la campagne lancée la semaine dernière par l'association Sauver L'Echelette, cette dernière a publié des photomontages pour dénoncer l'impact sur le paysage des 11 éoliennes prévues sur les crêtes entre Sonvilliers et Val-de-Rue Alexandre Steiner.
Les éoliennes modifieront certes ce paysage, mais le réchauffement climatique le détruira comme il détruira sa biodiversité. C'est en substance la réponse donnée par les promoteurs du parc éolien des Quatre Bornes. La société éolienne L'Ajout du Plaine L'Echelette rappelle que ce projet a été lancé par des agriculteurs de montagne de la région pour leurs propres terres et qu'il n'a nullement été imposé par un promoteur extérieur. Les agriculteurs à l'origine du projet soulignent par ailleurs que la création d'un parc éolien aidera à lutter contre le réchauffement climatique et à pérenniser les activités agricoles de montagne. Ils ajoutent qu'un parc éolien, contrairement au réchauffement climatique, est réversible et qu'il sera toujours possible de redonner son image à la région en démontant et en recyclant les éoliennes.
Merci Alexandre. Jura Bernois-Bienne est officiellement en fonction. L'association est issue de la fusion de l'association régionale Jura-Bienne, de la conférence des maires et de Centre Jura s'est réunie pour la première fois jeudi dernier à Perfit, commune de la présidente Virginie Heyer. Ses membres ont élu à l'unanimité Marc-André Leschaud, maire d'Orvin, à la vice-présidence. Proposer aux jeunes de vivre une première expérience professionnelle, tel est l'objectif du projet Petit Job, porté par le service de la jeunesse et des actions communautaires à Moutier. C'est dans ce cadre qu'Emmanuela Oale-Bora et Elsa Mayo dos Santos ont décidé d'organiser l'action Mimosa du Bonheur dans la commune. Cette vente de fleurs qui a lieu dans plusieurs cantons permet de financer des activités pour des jeunes issus de familles défavorisées. Les adolescentes de 13 et 14 ans ont présenté leur projet à la presse ce matin. Il devrait aussi avoir des retombées positives pour le Céjac, comme l'explique le chef du service, Camille Boya.
Si on peut mettre en place des relations durables comme celle-là, c'est un plus pour le Céjac, c'est bien pour les jeunes qui peuvent s'impliquer dans tel projet. Et vu que c'est des fonds qui permettent aux jeunes de participer à des activités extrascolaires, c'est aussi une manière indirecte d'aider les jeunes financièrement.
Donc les jeunes qui participent aux activités du Céjac pourront aussi avoir du soutien de l'association Mimosa.
Bien sûr, on n'a pas encore réglé tous les détails avec l'association Mimosa, mais c'est typiquement un public qui pourra bénéficier de ces aides-là, j'imagine.
Elsa et Emmanuela vendront les Mimosas du Bonheur jeudi après-midi, dès 13h devant Optimag à Moutier. L'action portée dans la région par le syndicat des enseignants francophones bernois sera aussi organisée dans 15 autres communes. C'est en se réfugiant sur les toits de Porrentruy qu'un homme a tenté d'échapper à son arrestation aujourd'hui. Un individu recherché dans le cadre d'un mandat d'arrêt a pris la fuite en fin de matinée. Un important dispositif a été déployé en vieille ville pour éviter un accident. Le fuyard s'est finalement rendu en début d'après-midi grâce à l'intervention d'un négociateur de la police cantonale jurassienne. Et la justice jurassienne se penche sur un vaste trafic de drogue dès ce matin. Une bande de 6 hommes comparaît devant le tribunal pénal de première instance à Porrentruy. Les prévenus doivent notamment répondre d'infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants. Vu les tensions entre les différents protagonistes, le procès se déroule sous haute surveillance. Une quinzaine de policiers sont mobilisés alors qu'un portail détecteur de métaux a été installé à l'entrée de la salle d'audience. Le procureur a requis des peines allant de 5 à 8 ans de prison ferme pour la majorité des accusés. Le compte-rendu d'audience avec Alexandre Rosset.
Le procureur a insisté sur la gravité des infractions reprochées aux prévenus, que ce soit au niveau de l'organisation en bande, de l'étendue géographique qui va de Porrentruy à Bienne, du nombre d'années en cause, soit 2013 à 2016, ou encore de la quantité de drogue. Cocaïne, amphétamine, hashish, marijuana ou MDMA, la liste des délits supposés est longue, elle fait d'ailleurs plus de 8 pages. Nicolas Thoria a tenté d'expliquer le rôle de chaque protagoniste. Il y a, selon lui, le chef qui s'est fait discret et qui a continué de gérer le trafic une fois en prison. On peut aussi citer son bras droit, son associé avec lequel il s'est brouillé ou encore un chauffeur. D'après Nicolas Thoria, trop d'éléments pèsent en la défaveur des prévenus. C'est pourquoi il a réclamé des peines allant de 5 à 8 ans de prison ferme. Une exception toutefois, le procureur n'a requis que 3 ans de prison avec sursis contre le chauffeur, sachant notamment qu'il a déjà exécuté une partie de sa peine. Pour l'heure, deux avocats ont plaidé. Ils se sont dit estomaqués et abasourdis par les peines réclamées par le procureur. L'un a estimé que tout avait été exagéré et que le réseau en question était loin de ressembler à celui d'El Chapo ou de Pablo Escobar. Le manque de preuves a également été mis en avant.
Le procès continue demain avec la suite des plaidoiries. Le verdict sera rendu jeudi. Ce sera sans Donald Trump, mais avec des conseillers fédéraux. Le président de la Confédération, William O'Rear, ouvrira le Forum économique mondial demain et ses collègues Ignacio Cassis, Guy Parmelin et Alain Berset se rendront aussi à Davos. Si certains invités de prestige, comme les présidents américains et français et la première ministre britannique, seront absents, les conseillers fédéraux rencontreront de nombreux autres politiciens. Le sommet sera-t-il l'occasion de parler d'équivalence boursière et d'accord cadre, source de tensions entre Berne et l'Union européenne, William O'Rear.
Non, ça c'est pas le niveau. La bourse, ça c'est sur le niveau technique une question, mais pas sur le niveau politique. Peut-être on peut discuter ça avec un café, mais ça c'est pas une chose pour le WEF.
Mais en tant que président et ministre des Finances, pour vous, qu'est-ce qui est plus important, c'est le WEF ou le G20 des ministres des Finances?
Ah, tous les deux sont importants. Avec le WEF, on a les contacts régulièrement, 5 fois par année. Je connais tous mes collègues. Le WEF, ça c'est aussi maintenant les contacts avec les présidents de l'État, avec les premiers ministres. Bon, tous les deux choses, c'est important pour la Suisse.
Au total, quelques 50 rencontres bilatérales sont au programme de la semaine davosienne des conseillers fédéraux. Il y a 6 jours, Theresa May a essuyé une défaite historique sur le Brexit à la Chambre des communes. La première ministre britannique a perdu le vote sur l'accord qu'elle avait conclu avec l'Union européenne. Jamais un gouvernement en place n'avait perdu un vote par une telle majorité de 230 voix. Aujourd'hui, elle est revenue devant les communes pour présenter en principe son plan B. Mais elle a pour l'instant cherché à gagner du temps. À Londres, notre correspondant Eric Albert.
Theresa May persiste et signe. Une semaine après sa défaite historique, elle est revenue devant la Chambre des communes sans vraiment présenter de plan de rechange. La première ministre britannique s'est contentée d'annoncer qu'elle allait continuer les discussions avec les autres partis politiques pour essayer d'arracher un compromis avant peut-être de retourner voir Bruxelles pour tenter cette fois-ci de leur faire accepter la nouvelle donne. Il manque cependant à ces discussions le principal parti d'opposition, le parti travailliste, qui refuse de négocier, estimant que Theresa May n'est pas sincère. De plus, la première ministre britannique rejette l'idée d'un second référendum. Elle refuse aussi les demandes des travaillistes de rester au sein de l'Union douanière européenne. Bref, à l'entendre, le seul compromis possible est très proche de l'accord qu'elle proposait la semaine dernière. Le problème de cette approche est qu'il ne reste que 67 jours avant la date d'entrée en vigueur du Brexit. Il y a désormais urgence, mais on n'y voit toujours pas plus clair qu'avant.
RJB, il est 18h09.
Sport.
Novak Djokovic lâche un set, mais poursuit sa route à l'Open d'Australie de tennis. Le Serbe s'est qualifié pour les quarts de finale cet après-midi à Melbourne. Il s'est défait du Russe Daniil Medvedev en 4 manches, 6-4, 6-7, 6-2, 6-3. Kei Nishikori disputera aussi les quarts de finale. Le Japonais a renversé une situation bien mal embarquée. Mené 2 manches à 0, il s'est finalement imposé face à l'Espagnol Pablo Carreño Busta, 6-7, 4-6, 7-6, 6-4, 7-6. Les prochaines informations, c'est le flash à 18h30. Belle soirée.
Et les informations en attendant, vous pouvez les retrouver en tout temps sur notre site internet rjb.ch et sur l'application gratuite. Cette nuit, le temps restera calme et sec. Toutefois, une formation de bandes stratus et de brouillards givrants se formeront au-dessus de 1000 mètres. Demain, ces nuages et brouillards seront toujours présents en matinée, puis se dissiperont partiellement durant la journée. Au-dessus de cette grisaille, vers 1000 mètres, c'est un temps ensoleillé qui vous attend. Le ciel se voilera en fin de journée et la neige tombera jusqu'en plaine dans la nuit de mardi à mercredi. Côté température, les minimales s'étendront de moins 8 à moins 4 degrés et les maximales de 0 à 1 degré. Il va donc faire plutôt froid.